Électrochoc, le podcast des électrons libres.
Comment la tulipe fut à l'origine du capitalisme ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante, presque incroyable, celle d'une simple fleur qui a ébranlé une nation et posé les fondations de notre système économique moderne.
C'est une histoire qui nous transporte au cœur du XVIIe siècle, aux Pays-Bas. Il faut s'imaginer cette époque. C'est l'âge d'or néerlandais. Les provinces unies, tout juste nées de leur révolte contre l'Espagne, deviennent une puissance mondiale.
Exactement. Amsterdam est le centre du monde. Son port est une fourmilière. Ses canaux voient passer les richesses venues des Indes orientales. C'est une république protestante, tolérante, qui attire les plus grands esprits de l'époque, comme Descartes ou John Locke. Une nation qui respire la prospérité et l'innovation.
Et au milieu de cette effervescence, une fleur, venue de l'Empire ottoman, va tout changer. La tulipe. À l'origine, elle ornait les jardins des sultans, un symbole de perfection divine. Puis, un botaniste, Carolus Clusius, plante les premiers bulbes à l'université de Leyde en 1593.
Et là, c'est le coup de foudre. L'élite néerlandaise est captivée. Dans cette société calviniste où on n'étale pas sa richesse, posséder des tulipes rares devient le signe ultime de statut social. C'est une fortune discrète, mais que tout le monde comprend.
Ses couleurs, ses formes, certaines variétés étaient d'une rareté absolue. On pense notamment à la fameuse Semper Augustus, avec ses pétales striés de rouge et de blanc. Une beauté provoquée, on le sait aujourd'hui, par un virus. Mais à l'époque, c'était un mystère qui la rendait encore plus désirable.
Et c'est là que l'histoire bascule. D'un simple objet de luxe, la tulipe devient un objet de spéculation. On entre dans ce que l'histoire a retenu sous le nom de tulipomanie, entre 1634 et 1637.
Le mécanisme est à la fois simple et vertigineux. Les marchands ont compris qu'il y avait plus d'argent à se faire en négociant les promesses de fleurs que les fleurs elles-mêmes. Ils se sont mis à vendre des bulbes qui n'étaient même pas encore sortis de terre.
C'est la naissance des contrats à terme. Imaginez, un acheteur s'engage à payer un prix fixe pour un bulbe qui lui sera livré dans plusieurs mois. Il parie que d'ici là, la valeur de ce bulbe aura grimpé en flèche et qu'il pourra le revendre avec un profit énorme.
Et ça a fonctionné. Les prix se sont envolés, non pas par une rareté réelle, mais parce que tout le monde était persuadé qu'ils continueraient à monter. Des artisans, des fermiers, tout le monde voulait sa part du rêve.
Des marchés improvisés se sont créés dans les tavernes d'Amsterdam ou de Harlem. On s'échangeait ces contrats sur un coin de table, sans aucune régulation, juste sur la base de la confiance et de la rumeur. C'est l'ancêtre de nos bourses modernes.
Pour donner une idée de la folie, en février 1637, un seul bulbe d'une variété rare pouvait se négocier jusqu'à 10 000 florins. C'était l'équivalent du prix d'une magnifique maison sur les canaux d'Amsterdam.
On n'achetait plus pour planter ou pour admirer. On achetait uniquement dans l'espoir de revendre plus cher à quelqu'un d'autre qui lui-même espérait trouver un autre acheteur. C'est une pyramide où tout repose sur la croyance collective que la hausse sera éternelle.
Mais aucune bulle n'est éternelle. Et celle-ci a éclaté. Très précisément, le 3 février 1637, lors d'une vente aux enchères à Harlem, soudainement, il n'y eut plus d'acheteurs. Le silence, la panique.
Le cachot de cartes s'effondre. Du jour au lendemain, des fortunes en papier s'évaporent. Ceux qui étaient entrés tard dans le jeu ont tout perdu. Les contrats ne valent plus rien.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce krach n'a pas ruiné l'économie néerlandaise. L'âge d'or a continué, mais il a laissé des traces profondes. Les premiers arrivés ont fait des profits immenses, les derniers ont payé la note. Une leçon brutale sur la nature de la spéculation.
Mais le plus fascinant, c'est l'héritage de cette crise. La tulipomanie a paradoxalement structuré le marché. Elle a stimulé l'horticulture, la recherche botanique. Elle a posé les bases qui ont fait des Pays-Bas le premier exportateur mondial de fleurs, ce qu'ils le sont encore aujourd'hui.
Elle a aussi créé de la valeur, pas seulement financière, une valeur symbolique, culturelle. La tulipe est devenue un emblème national, le symbole de la beauté éphémère, mais aussi de l'ambition et du risque.
Et surtout, elle a servi de laboratoire au capitalisme financier. Les contrats à terme, les mécanismes de marché, la psychologie des foules, les bulles spéculatives et les krachs, tout était déjà là, en miniature.
C'est une leçon qui a traversé la siècle. On a vu d'autres bulles, d'autres crises, de la bulle des mers du Sud jusqu'à la crise des subprimes de 2008. L'histoire de la tulipe est un avertissement temporel sur la fine frontière entre l'investissement rationnel et la pure cupidité.
Une simple fleur a donc révélé les mécanismes les plus profonds de nos économies. Elle a montré que la valeur d'une chose dépend moins de son utilité que du désir et de la croyance que nous plaçons en elle.
Et aujourd'hui, quand on voit ces champs de tulipes infinis qui colorent les Pays-Bas chaque printemps, il est difficile de ne pas penser à cette histoire folle, une histoire de beauté, de désir et de la naissance d'un système qui, pour le meilleur et pour le pire, régit encore notre monde.
Soutenez les électrons libres, abonnez-vous sur lel.media.